C'est bon? Ah, yes. Alors, on a le plaisir d'avoir Samuel qui est aux commandes de la Sono. Merci beaucoup pour ce service. Alors, on poursuit notre série sur les actes et aujourd'hui un fameux passage un peu plus loin, c'est ça? Ça va mieux comme ça? Ouais, c'est un nouveau micro, alors je dois m'habituer. Un fameux passage sur la Pentecôte. Alors, je vais commencer avec les premiers versets de ce chapitre. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme un souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, ils s'en posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que j'ai été baptisé par l'Esprit? La première fois que nous sommes allés dans une église charismatique avec mon épouse Priscille, simplement parce que c'était la seule église évangélique de notre quartier, après le culte, je suis allé parler au pasteur et je lui ai dit « Est-ce que je suis baptisé par l'Esprit ?» Cette question ne venait pas des éternels débats qu'il y a entre les églises charismatiques et les églises non charismatiques. D'ailleurs, je n'étais pas au courant de ces débats à l'époque. Cette question venait de mon cœur et était profonde. « Est-ce que j'ai l'Esprit Saint en moi ?» Sinon, que dois-je faire pour l'avoir? Si oui, comment ça se fait que j'en suis pas plus conscient? Comment entrer en contact avec lui? Quelle différence cela peut faire dans ma vie? Et vous, vous est-il arrivé de vous poser ce genre de questions? Pour pouvoir comprendre ce que l'Esprit est appelé à faire dans les croyants, il nous faut d'abord comprendre comment l'Esprit a participé à la création du monde. Pour commencer, il nous faut réaliser que l'Esprit Saint précède la création. En effet, l'Esprit Saint est Dieu, donc transcendant et éternel. Dans notre chapitre, Pierre, dans son discours dans lequel il explique ce qui est en train de se passer, hein, ces gens qui parlent des langues qu'ils ne connaissent pas, dit à la foule, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Nous voyons dans ce passage qu'il y a une relation assez complexe entre l'Esprit Saint, le Père et le Fils. Oui, je ne vais pas rapprocher le micro parce que ça va faire des fouf. Ok. Ouais. Très bien. Vous reconnaissez peut-être cette icône du peintre russe Andrei Rublev qui a vécu au XVe siècle, qui représente les trois personnages énigmatiques qui ont rendu visite à Abraham. En fait, il est dit Yahvé apparu à Abraham. Et puis ensuite, il y a trois personnes qui apparaissent. Vous voyez ici aussi un nœud qui représente la Trinité. L'Esprit est intimement lié au Père et au Fils. Il sort du Père, le Fils le reçoit et il le donne à l'Église. L'Esprit sonde le cœur du Père. Et il glorifie le Fils. Jésus nous dit que celui qui a vu le Fils a vu le Père, mais il nous dit aussi que celui qui a l'Esprit en lui a le Père et le Fils. Alors, quel est le rôle de l'Esprit dans la création du monde? Dans la Bible, l'Esprit Saint, le Ruach en hébreu, le pneuma en grec, est régulièrement associé à la puissance de Dieu, la dynamis en grec. Pour vous donner une petite idée de la puissance qu'il y a dans l'Esprit-Saint, il nous faut faire un tout petit peu de cosmologie. Je m'excuse, c'est la deuxième fois que je vais vous parler de cosmologie dans un prêche, mais je pense que ce sera assez parlant. Voici une représentation tridimensionnelle de l'espace-temps de notre univers, qui est quadridimensionnel. Lorsque l'espace-temps est apparu, il n'était qu'un point infinitésimal. Vous voyez ce point ici. On estime qu'après 10 puissance moins 32 secondes, donc extrêmement rapidement, notre univers avait au plus la taille d'une balle de ping-pong. Cet univers de la taille d'une balle de ping-pong contenait déjà toute l'énergie-masse que notre univers contient maintenant. Or, on estime que notre univers contient plus de 200 milliards de galaxies et qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers qu'il y a de grains de sable sur la Terre. Ainsi, l'énergie de 100 000 milliards de milliards d'étoiles était contenu dans une balle de ping-pong. Wow. Ça, c'est la puissance de l'Esprit-Saint. Alors, qu'est-ce que l'Esprit-Saint a fait dans la création? Il n'a pas seulement fait apparaître quelque chose de rien. Il rend aussi fertile ce qui a été créé. L'Esprit plane au-dessus du chaos primordial, ou si vous voulez, au-dessus de la soupe de quark de l'univers primitif. Ce chaos, il est stérile en l'état. Mais l'Esprit-Saint rend alors l'univers capable d'être porteur de vie. D'une terre déserte, nous passons à une terre couverte de végétation, peuplé d'animaux et d'êtres humains qui sont tous appelés par Dieu à se multiplier et à porter du fruit. Alors, est-ce que j'ai l'Esprit Saint? Si oui, quelle différence est-ce que cela est appelé à faire dans ma vie? Je pense que cette courte description que je vous ai faite de l'action de l'Esprit Saint dans la création du monde vous donne déjà quelques éléments de réponse. Mais continuons d'explorer ceci un peu plus en détail. Nous avons commencé par dire que le Saint-Esprit est Dieu, l'une des trois personnes de la Trinité. Ainsi, lorsqu'il vient demeurer dans les disciples à la Pentecôte, il fait de l'Église le nouveau temple. La fête de la Pentecôte, bien qu'originellement la fête des récoltes, a été rapidement dans le judaïsme associée à la descente de la présence de Dieu sur le Sinaï. Si vous regardez le début du chapitre 19 dans l'Exode, vous verrez que cette descente a lieu au début du troisième mois, c'est-à-dire 7 semaines après la première Pâque, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, Pentecosté 50, c'est-à-dire au moment de la Pentecôte. Alors la différence, c'est que maintenant, la présence de Dieu, elle ne va pas juste résider dans un tabernacle ou un temple, elle va venir à l'intérieur même des croyants. Donc la Pentecôte, c'est un nouveau Sinaï, quelque part. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence par rapport à notre compréhension de ce que fait l'Esprit-Saint dans le croyant? J'aimerais commencer par répondre à la première question que j'ai eue dans le passé. Est-ce que j'ai l'Esprit-Saint? Lors de l'Exode, au Sinaï donc, l'Esprit est venu résider au milieu du peuple, dans le tabernacle, de sorte que Dieu a pu dire « Vous êtes un royaume de prêtres ». pas seulement quelques individus sont prêtres, vous êtes un royaume de prêtres. Dans la nouvelle alliance, ceci est même intensifié. Pierre, vous vous souvenez peut-être, dans sa première épître, cite ce passage d'Exode. Il dit « Vous êtes un royaume de prêtres ». Mais il va plus loin et il va dire « Vous êtes construit en un temple de la présence de Dieu ». Tout croyant est une pierre de ce temple. Il n'y a pas une pierre qui est laissée de côté si un jour on en aura besoin pour corriger quelque chose dans la construction. Il n'y a pas une zone du temple qui est une antichambre où il n'y a pas la présence de Dieu. Tous, nous avons cette présence en nous. Et le prophète Joël, qui est cité par Pierre dans notre passage, se donne beaucoup de peine pour rendre cela très clair. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Ainsi, la question de savoir est-ce que j'ai l'esprit revient à la question de savoir est-ce que j'appartiens à Christ. Paul dit dans Romains 8, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si vous appartenez à Christ, vous avez l'esprit. C'est une bonne nouvelle, non? Et si vous n'appartenez pas encore à Christ, c'est une bonne nouvelle aussi pour vous. Car vous pouvez lui donner votre vie. D'ailleurs, c'est ce sur quoi Pierre continue dans son discours. Convertissez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sommes-nous conscients d'avoir Dieu en nous? Quel potentiel, quel trésor, quel cadeau. Oui, c'est un cadeau qui a coûté à Dieu l'incarnation du Fils, qui a coûté au Père de retourner la colère qu'il avait contre le péché, de la retourner contre son propre Fils. Qui a coûté au Fils l'agonie de la souffrance physique et plus encore de la séparation du Père dans le jugement et la mort. Nous avons Dieu en nous, la source de la vie, pure, puissante, sainte. Nous sommes appelés à la protéger, cette présence de Dieu en nous. Car elle s'est rendue vulnérable, à lui donner de la place parce qu'elle ne s'impose pas, à l'écouter car elle ne crie pas, à l'aimer car elle nous communique l'amour infini du Père, à lui faire confiance parce qu'elle veut notre bien. L'Esprit Saint est Dieu, donc nous sommes son temple. L'Esprit Saint est puissance de la création. Voilà la deuxième chose que nous avions notée. Dans son œuvre de création, l'Esprit a fait apparaître quelque chose à partir de rien. Mais lorsque Dieu est en train de réparer, de restaurer le monde, Dieu dit qu'il est en train de faire une nouvelle création. Alors dans la nouvelle création, il n'est pas en train de créer quelque chose à partir de rien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dans la nouvelle création, la puissance de l'Esprit fait apparaître l'immortalité et la sainteté au sein d'un monde qui est marqué par la mort et le péché. La création a commencé par la matière et s'est terminée par l'homme. La nouvelle création commence par l'homme et se termine par le renouvellement de toutes choses dans le ciel et sur la terre. En effet, c'est par la puissance du Saint-Esprit que le Père a ressuscité Christ des morts, faisant apparaître dans notre monde un homme dans un corps immortel est libéré de la chute. Cet homme, on l'appelle le nouvel Adam. C'est lui qui démarre la nouvelle création. C'est le Christ glorifié et ressuscité. Alors, la même puissance que Dieu a mis en œuvre dans cette résurrection de Jésus, la même dynamis qui a démarré le Big Bang, est en nous. Et cette puissance est active en nous pour commencer ce processus graduel de transformation qui sera complété à la fin des temps lorsqu'on ressuscitera. Alors, dans les Actes, on voit tout de suite l'impact de cette transformation, de cette nouvelle création qui commence dans l'homme. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Vous savez, où que vous en soyez, ceci est une bonne nouvelle. Si cela fait 2 jours, 10 ans, 40 ans que vous êtes chrétien, si vous êtes en pleine croissance dans votre foi, ou si vous êtes dans la stagnation depuis des années, sachez que la puissance de transformation de l'esprit, cette puissance qui va ressusciter les morts et qui va renouveler toute la création, cette puissance est en vous. Un jour, je marchais dans la neige dans les alentours de Saint-Loup. J'étais en retraite pour 3 jours. J'avais réussi à choper mal au ventre pendant ma retraite, ce qui m'énervait passablement. Et puis j'avais de la peine à connecter avec Dieu. Je marchais déprimé dans le froid du mois de novembre et dans une forêt sombre en fin d'après-midi. Puis tout d'un coup, la forêt s'est ouverte et j'ai vu le coucher de soleil sur une falaise en face de moi. C'était orange, rose, violet. J'ai tout de suite compris qu'il y avait là pas seulement un coucher de soleil, mais une présence particulière de Dieu. Et j'ai reçu cette parole. Tu es un enfant. Je venais de décider de me lancer dans le pastorat. J'avais le poids du monde sur les épaules. Et j'ai entendu cela. Tu es un enfant. J'ai tout de suite ressenti un immense poids tomber. Oui, c'est vrai, je n'étais qu'un enfant dans la foi. Je n'avais pas à prétendre autre chose. C'était là où j'en étais. Et Dieu m'aimait comme j'étais à ce moment. J'ai senti une immense liberté. Puis je lui ai demandé, mais comment je peux devenir pasteur si je suis un enfant? Il m'a dit, ah ça c'est mon problème, c'est moi qui vais m'en occuper, je vais te former. Dieu vous voit tel que vous êtes maintenant. Il n'y a pas besoin d'essayer de prétendre être quelqu'un d'autre. Peut-être que cela fait longtemps que vous ne l'avez plus laissé conduire votre vie ou transformer votre être intérieur. Peut-être que la peur vous retient, ou le non-pardon, ou le contrôle, ou l'indépendance, ou l'orgueil. Quelle que soit la raison, Dieu vous voit tel que vous êtes et vous aime. Et à tout moment, aujourd'hui par exemple, maintenant par exemple, il est prêt à reprendre le chemin avec vous, le chemin de la transformation. Alors, l'Esprit Saint est Dieu, nous avons dit, donc nous sommes temple. L'Esprit Saint est puissance de la création, donc nous sommes une nouvelle création. Finalement, l'Esprit Saint est celui qui fertilise la création. Souvenez-vous ce que nous avions vu à ce sujet. L'Esprit Saint n'a pas seulement créé à partir de rien, il a rendu la création fertile pour qu'elle soit porteuse de vie. Mais dès la chute, la création a été marquée par la stérilité et la mort. Dès la chute, la création a été marquée par la stérilité et la mort. Dans son œuvre de nouvelle création qu'il a commencé en nous, l'Esprit nous rend vivants, il nous rend à nouveau fertiles et prolifiques pour le royaume de Dieu. Comme ça a été chanté pendant la louange, et comme on le voit ici chez Ésaïe, plusieurs prophètes parlent du fait que dans les derniers jours, l'Esprit sera donné au peuple de Dieu. Et ils décrivent ce don de l'Esprit comme une eau qui vient abreuver une terre désertique, qui la fertilise, qui la rend luxuriante. C'est ça l'image qu'ils utilisent pour parler de la Pentecôte qu'ils ont vue d'avance. C'est une peinture qui a été faite par une communauté chrétienne indienne. Et c'est intéressant, on voit la Pentecôte et cette fertilisation du monde au travers de la Pentecôte. Pas étonnant dès lors que Dieu ait choisi pour donner son esprit la fête de la Pentecôte où l'on célèbre les prémices de la récolte du blé. On célèbre les moissons, on célèbre la fertilité du sol. À la Pentecôte, c'est Dieu qui nous donne les prémices de l'Esprit pour que nous devenions à notre tour une terre fertile qui porte du fruit. Notez la différence que ça fait parmi les disciples au niveau du fruit qu'ils portent. La communauté de disciples avait vu le Christ ressuscité. Ils ont eu des apparitions de lui pendant 40 jours. Ils ont vu Christ monter au ciel. Mais pendant tous ces 50 jours qui séparent la Pâque de la Pentecôte, il ne se passe rien. Il n'y a pas un seul converti. Puis la Pentecôte arrive et l'impact ne se fait pas attendre. Pierre transformé fait son premier discours et c'est 3000 personnes qui se convertissent en un jour. La puissance de l'Esprit est à l'œuvre dans la communauté, comme on le voit dans ce texte, transformant leur caractère, leurs relations et leur donnant des dons spirituels. Et cela se voit et témoigne de la puissance de la résurrection de Jésus, c'est-à-dire de l'Esprit qui est en eux. Et le résultat, c'est une moisson de croyants. L'Église commence à porter du fruit parce qu'elle est fertilisée par l'Esprit de vie. Qu'est-ce qui en moi est stérile? Qu'est-ce qui en moi est porteur de mort? Quelles sont les ronces qui viennent empêcher l'épi de pousser dans ma vie et de porter du grain? Est-ce le non-pardon? Est-ce l'anxiété? La dépression? La colère? Le dénigrement de moi-même? La dépendance? La consommation? Le carriérisme? Ou est-ce des péchés qui ont été commis contre moi, dont je n'ai pas pu encore être guéri? Un abus? Un manque d'affection et de reconnaissance dans mon enfance? Le rejet? Porter du fruit pour Dieu ne commence pas par faire plus ou faire mieux, car c'est un fruit surnaturel dont nous avons besoin, que nous ne pouvons pas produire par nos propres efforts. C'est le fruit de l'Esprit et c'est les dons de l'Esprit. Si nous voulons porter du fruit, nous devons laisser l'Esprit venir pointer ces zones stériles dans notre être, puis le laisser labourer et fertiliser ces zones. Nous sommes aussi appelés à désirer les dons et à les mettre en pratique. Pour franchir ces étapes, nous avons besoin les uns des autres. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un temps de prière libre après le message et aussi un temps où on vous offrira la prière pendant la Sainte Cène. Mais vous sentirez peut-être le besoin de plus d'accompagnement. c'est normal et c'est bon. Claude, est-ce que j'ai le temps pour un court témoignage encore, pour finir ? J'aimerais vous parler d'une zone de stérilité, d'une zone qui était porteuse de mort dans ma vie. J'ai traversé deux périodes de dépression grave dans ma vie. Ça m'est difficile d'en parler, mais je vais essayer. La première, c'était lorsque j'étais adolescent. J'ai fait une dépression qui est venue avec une anorexie. Et quand j'ai fini aux urgences, je pesais 28 kilos. Ma température corporelle était à 35 degrés. J'avais la peau qui était comme du parchemin. Et puis, grâce à Dieu, j'ai pu m'en sortir au travers du sport qui m'a permis de retrouver une relation plus normale à mon corps. Puis après ça, en première année des PFL, j'ai resombré. Là, c'était différent. J'ai pas eu d'anorexie, mais j'avais des pensées de suicide tous les jours. J'avais envie même de donner la mort à d'autres personnes. J'oubliais tout, je perdais tout. Je ne sais pas combien de pulls, de vestes, de stylos j'ai perdu pendant cette période. J'avais même la vue qui se troublait tellement, tellement c'était difficile cet état de dépression. Et puis, un jour, j'ai rencontré la lumière de la vie. L'Esprit Saint qui est venu en moi. C'est vrai que j'ai encore de l'anxiété, comme j'en ai des fois parlé. Mais j'ai plus cette dépression qui est comme un gouffre profond qui vous engloutit. J'en ai été libéré. Comment ? Par l'amour du Père. L'amour du Père pour moi, qui m'est donné par le Saint-Esprit. Alors l'Esprit est Dieu, donc nous sommes son temple. L'Esprit est puissance de la création, donc nous sommes une nouvelle création. L'Esprit fertilise la création, donc nous pouvons porter du fruit pour Dieu. J'aimerais terminer en vous laissant ce passage d'Apocalypse et un dessin de Théodore. Ce passage décrit la nouvelle création lorsqu'elle sera complète, l'aboutissement de toute chose. Ok. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Donc nous avons ici la Trinité. Le Père qui est appelé Dieu ici, le Fils qui est appelé l'agneau, et le Saint-Esprit qui est appelé l'eau de la vie. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie, produisant 12 récoltes, donnant son fruit chaque mois. Nous avons cette création qui est nouveau, fertile. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Toute souffrance a été guérie. Avec Claude, on aimerait maintenant vous proposer un temps de prière libre. Ce que Dieu vous suscite dans votre cœur avant qu'on passe à la Sainte-Cène.